demi-heure plus tard, il revient au bureau avec son album. Va s'asseoir près de Galien et lit. Il a fini de lire au bout de 3/4 d'heure. Galien lui demande « C'était bien ?»« Oui. »« T'as déjà fini ?»« Oui. »« 50 francs, 3/4 d'heure, c'est cher. »« Tu vas pas me faire des histoires pour 50 francs ?» Une demi-heure plus tard, Didier demande « Tu peux me donner de l'argent ?»« Quoi ? Encore ?»« J'ai faim. Je veux m'acheter des gâteaux et une bouteille de coca. » Galien lui donne 50 francs. Didier les prend sans dire merci. Et il sort du bureau. Il revient avec une bouteille de coca et un paquet de gâteaux. Il s'assoit à côté de Galien. Galien lui dit, quand je te donne de l'argent, tu pourrais dire merci. Merci. Tu n'as rien d'autre à me dire que de demander de l'argent? Tu n'as aucun sentiment? Rien? Pour toi, les autres doivent être à ton service? Hein? Le téléphone sonne. Galien a pris l'appareil. Allô? Oui? Que se passe-t-il? Comment? Qu'a-t-elle? Bien, je viens. Dites-le-lui. Les médecins. Bien. Bien, d'accord. Galien dit à Didier, je m'avais été obligé de partir faire un petit voyage. Tu vas où? En Bourgogne, dans un château. Il est arrivé un malheur à une personne. Elle est tombée malade et je dois aller voir. Didier lui demande. Je vais avec toi? Non, ce serait gênant. Non, je veux aller avec toi. Je ne veux pas rester ici, tout seul, avec ces gens. Bien, mais tu resteras tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire par rester tranquille? Être discret. Il y a là-bas une personne très malade. Il ne faudra pas la fatiguer et ne pas gêner les domestiques. D'accord? Oui. Galien téléphone à sa secrétaire. Pouvez-vous dire à M. Danfort que je dois partir le plus vite possible au château? Bien. Merci. Plus tard, il arrive au château. Trouve au salon le médecin, un homme grand, mince, cheveux gris, costume marine. Alors, docteur.
Elle fait Blidor en or. Je ne comprends pas.
Gallien lui dit, faudrait peut-être l'amener à l'hôpital. Le médecin lui répond,
surtout pas, à cause des ragots. Et puis, elle a tout ce qu'il faut ici.
Gallien lui demande, vous êtes le médecin du village?
Non, monsieur, mais votre médecin privé. Lorsqu'il y a quelque chose dans votre entourage ou pour vous-même, je suis toujours là.
Ah, je comprends. Cela pour éviter les scandales.
Oui, monsieur. N'oubliez pas, c'est que vous êtes, vu votre situation, un homme public et que rien peut donner des idées plus folles.
Je comprends. Dites-moi la vérité. Est-elle perdue?
Malheureusement, je le crains.
Quel est son mal?
Peut-être un empoisonnement ou une fièvre donnée par une bactérie tropicale peu connue.
Pouvez-vous tout faire pour la soigner?
Non. Il faut que ce soit pour notre bien à tous.
Je vous remercie de me parler franchement. Pourrais-je aller la voir?
Oui, bien sûr.
Bon, merci docteur. Je vais y aller. Mais vous restez ici, bien entendu.
Oui. Et ce jeune garçon que vous avez amené ici?
Il est dans le jardin. Il ne sait rien. C'est un ami en dehors de toute histoire.
Et Gallien sort de la pièce. Il monte à la chambre qui se trouve au deuxième étage. Frappe à la porte. Entrez. C'est Danfort qui vient de dire d'entrer. Il entre.
Elle est allongée sur son lit, les cheveux défaits, le visage blanc, yeux fiévreux, maigres, une odeur de chambre de malade avec en plus du parfum, sans nul doute pour cacher une odeur après le vomi. La pièce baigne de lumière, Danfort est debout devant le lit de la malade. Gallien se demande ce qu'il est venu faire là. Peut-être tient-il à voir si elle va bien mourir comme il a dû le faire faire. Gallien s'approche d'eux. Il dit à Danfort, juste pour l'embêter, « Vous pouvez me laisser seul avec Karine. »
Danfort se retire.
Gallien se penche vers la malade et lui dit « Bonjour Karine, je suis Gallien. Dès que j'ai appris votre état, je suis accouru vous voir. » Elle lui dit « Ne vous en faites pas, je vais mourir. » « Mais non Karine, je suis là et je vais vous soigner. » « Non, je suis perdu, ils ne voulent pas. » « Mais moi si. » Eux non, il paraît que je gêne et que je suis dangereuse. Je sais trop de choses. Que voulez-vous? Que savez-vous? J'ai mal. Ils m'ont fait une piqûre pour me mettre ce mal. Elle soulève la manche droite de sa chemise de nuit et Gallien voit un bras enflé et bleuté. Qui vous a fait ça?
Je ne sais pas. Je dormais et d'un coup, on m'a piqué. Et ça a été fini.
Mais vous allez vivre. Il y a des tas de contrepoisons. Je vais vous faire mener à l'hôpital.
Ils ne voudront jamais. Je sais trop de choses.
Quelle chose? Karine fait la grimace. Se soulève et montre du doigt un tableau et retombe sur le lit, inanimé. Gallien se penche, lui touche le bras, il est inerte, le visage aussi.
Vite, il sort de la chambre. Il crie.
Elle est morte. Elle est morte.
Des pas qui montent en vitesse. C'est Danfort et le médecin. Ils entrent dans la chambre et vont vers le lit. Danfort dit à Galia,
il n'y a rien à faire, elle est morte,
nous occupons de tout. Galia lui dit, il va falloir prévenir les autorités.
Laissez-nous faire.
Galia lui dit, et le cercueil, la tombe. Danfort lui dit,
elle a toujours parlé qu'on brûle son corps.
Galia se dit, comme ça il ne restera plus rien d'elle. Que descendre. L'enfant lui dit, allez vous reposer. Et Galien va aller au jardin prévenir Didier du décès de Karine. Trois jours plus tard, tout a été fait. Tout à coup, il se souvient des derniers entretiens de Karine, du secret qu'elle a gardé et de son geste.
Il retourne dans la chambre de Karine. Pour voir le tableau.
Il représente un portrait d'un homme du 19e, cheveux grisonnants, visage agréable. Il est peint en buste devant une tapisserie représentant une licorne. Galien s'approche du tableau, le regarde bien. Il ne trouve rien de spécial. Le retourne, il n'y a rien. Regarde la signature du peintre, elle est illisible.
La voiture est prête, monsieur.
Il sursaute. C'est la voix de Danfort. Se retourne, le voit. Bien, j'arrive. Et il s'en retourne pour Paris. À Paris, la vie continue. Didier est toujours chez Galien. Il est toujours aussi turbulent et demande constamment quelque chose. Mais sa présence donne un peu de chaleur humaine à Galien. Danfort fait celui qui s'en accommode, ou plutôt fait celui qui ne le voit pas, ou l'ignore. Les jours passent. Un soir, Galia invite Didier au restaurant pour le distraire un peu et parce qu'il n'a pas été trop désagréable. Didier a voulu aller dans un restaurant japonais. Ils y vont et s'assoivent à une table. Galia lui dit « Je n'aime pas tellement aller dans ce genre de restaurant exotique. » C'est un peu tape à l'œil. Regarde, ça fait décor. Et puis, les serveurs semblent se moquer de nous. Didier lui dit, tu n'es jamais content. Moi, j'aime bien. Et puis, ça fait un peu décor à la Tintin. Galia lui demande, c'est pour ça que tu voulais venir ici? Non, parce que j'aimerais manger avec des baguettes. Ça doit être marrant. Un serveur vient prendre commande. Comme ils ne connaissent rien, ils prennent au hasard. Galia lui dit, je t'ai amené ici parce que c'est pour te récompenser de ta tenue. Tu as été sage. Mais je suis gentil, toujours gentil. Galia sourit et se dit que malgré tout, il est resté très gosse. Et que c'est tant mieux, que c'est mieux comme ça. On les sert, ils ont des difficultés à manger avec des baguettes. Mais Didier s'obstine. Galia lui dit, un vrai gosse. Et que comptes-tu faire? Quoi? Oui, tu vas pas rester éternellement comme ça avec moi? Pourquoi pas? C'est bien comme ça. Il faudra bien que tu aies une profession. Pourquoi faire? Gagner de l'argent? Pourquoi? Tu n'en as pas assez? Galia sourit et se dit que de toute façon, il lui trouvera bien du travail. Et le dîner se passe agréablement. Puis, ils sortent du restaurant. Il fait nuit, l'air est doux. Il y a quelques passants. Une jeune femme les dépasse, un homme aussi, et en dépassant la femme, il la bouscule et lui arrache les mains son sac. Elle tombe à terre et crie « Ah !» Galia accourt, la relève, Didier court après son agresseur. Vous n'avez rien, madame? Non, merci. Quelle brute! Et mon sac? Didier revient et leur dit, j'ai pas pu le rattraper. Il est entré dans une voiture et ma fille est affilée. La femme est grande, mince, très élégante, les cheveux mi-longs, tombants, châtains, de grands yeux bleus, visage un peu osseux, mais très élégant. Elle porte un manteau rouge, des chaussures rouges et noires, un chapeau rouge et des boucles d'oreilles aussi rouges. Elle leur dit « Merci, messieurs !» Puis tout d'un coup « Oh mon Dieu, j'ai plus d'argent pour prendre un taxi !» Galia lui dit « Si vous permettez, nous pouvons vous raccompagner, j'ai ma voiture. »«
Je veux bien, merci monsieur, je ne vois pas passer toute la nuit dehors. »
Ils vont vers la voiture de Galia. Entre. Galia demande à la jeune femme « Quelle adresse ?»«
Rue Fleury, Versailles. »
Galia dit au chauffeur.
Rue Fleury, à Versailles.
Elle dit à Galia
« Pour une fois que je sors, d'habitude je sors, je reste chez moi. » J'habite une petite villa, dans une rue tranquille.
Galia lui demande,
vous vivez seul? Oui, je suis veuve.
Vous travaillez?
Oui, je travaille dans un laboratoire, mais j'en ai pas vraiment besoin. Cela me distrait.
Didier semble s'ennuyer et regarde le paysage. Galien dit,
moi aussi je vis seul. Didier furieux lui dit, et moi alors?
Galien sourit et lui dit, c'est vrai, je t'avais oublié. Didier lui dit, bien sûr, je compte pour du beurre.
Mais non, mais pour ainsi dire, tu as un invité. Merci.
La femme sourit. Le chauffeur dit,
nous sommes dans la rue Fleury, c'est quel numéro?
Elle lui dit, le 15.
La voiture s'est arrêtée devant un portail qui donne dans un parc et au fond, il y a une petite maison style 18e.
Galien lui dit, vous êtes arrivé?
Elle lui dit, merci. Si vous voulez, vous pouvez venir prendre un verre.
Oui, je veux bien, merci.
Elle lui dit, je m'appelle Martine Brutochkette.
Moi, c'est Galien Diap et ce jeune homme, c'est Didier.
Le chauffeur sort de voiture pour ouvrir à la femme.
Elle sort et dit, venez.
Galien dit à Didier,
tu viens?
Non.
Pourquoi?
Parce que je n'en ai pas envie.
Tu es fâché?
Non.
La femme lui dit,
venez. Je dois vous remercier, vous aussi, pour avoir couru après mon voleur.
Didier lui dit, pas la peine.
Galien demande,
tu veux vraiment pas?
Non.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Je rentre.
Bon, à tout à l'heure.
Et il sort de voiture.
Le chauffeur entre dans la voiture
et emmène Didier.
La femme ouvre le portail.
Heureusement que mes clés étaient dans ma poche.
Elle le conduit jusqu'à la maison, en suivant un petit chemin de gravier qui longe une pelouse avec des arbres centenaires.
Elle lui dit, cette maison a été achetée par mon père pour ma mère en cadeau d'anniversaire de mariage. Et 6 mois plus tard, elle mourait d'une attaque. Et mon père est mort lui aussi, maintenant. J'habite cette maison. Avant, j'habitais un appartement, à Paris, près du Panthéon. C'était très gai et un peu province. Gai par les allées et venues des élèves du lycée Henri IV, et province par son décor.
Elle ouvre la maison. Éclair. Entrez, il entre.
Petit hall d'entrée en demi-cercle, escalier de marbre. Elle lui dit,
nous allons au salon, c'est au premier.
Il la suit. Arrivé au premier, il longe un petit couloir.
Il entre.
Grande pièce, meublée Louis XV, tapisserie blaise à petites fleurs. Bois menuisier.
Asseyez-vous.
Il s'assoit sur une chaise à côté d'une table basse.
Je n'ai pas de domestique. Je me sens plus libre. Une femme de ménage vient une fois par semaine dépoussiérer et faire le linge.
Il lui dit, vous avez raison, moi j'en ai que trop.
Elle lui demande, vous voulez boire quelque chose?
Oui, je veux bien.
Bourbon, champagne, whisky, bourbonne, cognac.
Bourbon.
et elle va le lui chercher dans un coin de la pièce où se trouve un bar. Et elle revient vers lui avec une bouteille et deux verres. Serre.
Et s'assoit près de lui.
Elle lui dit : « Vous savez, je vous connais. »
« Comment ?»«
Je sais qui vous êtes et ce que vous faites. » Il lui dit :
« Par la presse ?»«
Non, pas vraiment, plutôt par connaissance. Et je sais beaucoup de choses, ce que font vos entreprises. Vous croyez en Dieu ?»
Calien est surpris.
« Je pense, oui. »
Et sourit, lui dit.
« Moi, j'ai un ami qui pour lui, la religion, aide à l'ascension sociale. Il va à la messe pour se montrer et veut tout faire pour être diacre, car il veut qu'on le voie en pleine lumière et que l'autel, c'est un peu pour lui comme une scène de théâtre. Il m'énerve, c'est un véritable tartuffe. Je sais, c'est qu'il ne prie pas pendant la messe. Et vous, vous êtes comme ça ?
Mais non, d'ailleurs, je ne vais jamais à la messe et ne prie pas.
Elle lui dit : Mais vous dites croire, pourquoi ?
Calien hausse les épaules et lui dit :
Par mon éducation,
elle lui dit.
Pour vous, la religion, c'est simplement une façon d'éduquer.
Il lui dit,
non, pas vraiment, il y a plus. Mais la religion fait partie de notre héritage culturel, historique, moral. Elle est entrée dans nos habitudes, nos mœurs. Et puis, je me dis chrétien, cela ne veut pas dire religieux.
Elle lui dit,
c'est presque un blasphème ce que vous dites là. Mais non, et puis je crois en Dieu à ma façon.
Elle lui dit,
croire en Dieu à sa façon, ce n'est pas chrétien.
Il lui dit, pourquoi ? Dieu, à moi, est celui des chrétiens, mais je lui enlève tous ces, miracles, histoires fabuleuses, le côté féerie.
Elle lui demande, et qu'en reste-t-il ?
Il lui répond,
l'essentiel, c'est-à-dire un message qui est un message moral, d'amour, une ligne de conduite. Ce message-là nous a été transmis par Jésus pour nous faire comprendre que la vie est un bien précieux, notre vie et tout ce qui vit. Mais pour moi, Dieu, le Créateur, le Père, comme l'on dit, en réalité, c'est pas un Dieu, un homme avec du pouvoir. Non, pour moi, Dieu, c'est un fluide qui est dans chaque vie, qui ne juge pas et ne pense pas. Le fluide se contente de donner la vie et de se retirer à cause de certaines règles qui s'est données. On dit que Dieu est amour et qu'il laisse les hommes libres de choisir. C'est vrai, puisqu'il ne juge pas. Il se contente de donner la vie. Son seul rôle est de donner la vie et qu'elle se continue.
Elle lui demande, d'après vous,
il nous enlève la vie d'après certaines règles, mais lesquelles ?
Il lui dit, d'après moi, le but de la vie, c'est de se reproduire. C'est tout. Et une fois que la chose est faite, il ne nous reste plus rien à faire. La vie qu'elle a donnée la remplace. Pour continuer le chaînon de la vie. Donc, comme il ne lui resterait plus rien à faire, elle peut disparaître. Pour éviter le surnombre, Dieu a rendu la vie fragile. Elle peut s'arrêter à cause d'un accident qui détraque notre corps, empêcher le sang de circuler, les informations d'être données, etc. Par des maladies qui sont entrées dans le corps grâce à des microbes ou bactéries. Détruire le bon fonctionnement du corps. Elle lui dit
« Donc, Dieu n'est qu'une chose chimique ou mécanique qui donne la vie et à chaque être vivant. »
Oui, elle lui dit.
Alors, si Dieu est un fluide qui donne la vie à des choses qu'il a voulu vivantes, choisies vivantes, et qu'il a voulu comme ça, est-ce que c'est désobéir à Dieu de transformer ces choses qu'il a voulu comme ça, et est-ce lui désobéir aussi en allongeant la vie malgré lui, ou en la refaisant vivre ? Il lui dit, je ne crois pas, car c'est pour notre bien-être et il n'est pas interdit de se soigner. Elle lui dit, mais là, vous allez plus loin, vous transformez la vie pour qu'elle soit à notre service, les végétaux, les bêtes et maintenant les hommes. Il sourit et lui dit, c'est de la science-fiction, on ne touche pas aux hommes.
Elle lui dit, ce n'est pas vrai, vous cherchez même à faire des races à votre à nos services, des mutants, des chimères.
Il lui dit, je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Elle lui dit,
je sais. Les recherches que vous faites dans vos laboratoires.
Il lui dit, je ne suis pas au courant.
Je vous montrerai des preuves, mais assez parlé. Vous voulez boire encore ?
Oui, je veux bien. Elle le serre.
Après avoir bu, il lui dit « Il se fait tard, je dois rentrer. » « Vous voulez pas dormir ici ? Je ne... Il y a de la place, et puis il est tard. »
Il lui dit « Je vais téléphoner à mon chauffeur pour qu'il vienne me prendre. »
Elle lui dit « Vous allez le faire venir jusqu'ici, le pauvre. Laissez-le. Venez. »
Elle se lève et va vers lui.
Elle le prend par la main et lui dit « Ne craignez rien. »
Il sent l'odeur de son parfum. L'hiver, l'alcool l'ont enivré un peu. Il se laisse conduire.
Ils sortent du salon.
C'est ma chambre.
Il lui dit troublé, gêné. Vous voulez montrer des pièces que vous avez ?
Elle lui dit, il est tard. Demain matin.
Elle se penche vers lui, lui caresse ses cheveux.
Détendez-vous.
Elle l'embrasse sur les lèvres. Il se laisse guider.
Puis, c'est le brouillard. L'amour, l'alcool, la tête lui tourne. La douceur de cette peau, la beauté de ce corps, et puis...
Thank you.
Il se réveille, la tête lourde. Il se sent allongé, regarde sans bouger ce qui l'entoure dans la demi-obscurité. Il est bien dans une chambre, mais laquelle ? Il ne se souvient plus de rien.
Il se réveille, il se lève. Il sort de la chambre.
Passant dans le couloir, il voit une porte ouverte et jette un coup d'œil. Là, il voit, avachi sur le lit, en travers, la chemise de nuit pleine de sang, livide, le regard fixe, blanche, Martine. Un couteau est au pied du lit. Un couteau, la lame rouge. Sur le mur, qui est derrière leur lit, marqué en rouge sang, PM, DM, 43. Galien s'approche du lit. Tout à coup, il ressent un coup derrière la nuque. Ah !
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.